Docteur Étienne Fakaba Sissoko, bonjour.
Bonjour.
L'attaque terroriste qui a frappé la semaine dernière un restaurant et un hôtel de la capitale burkinabé demeure toujours dans les esprits. Est-ce qu'on peut établir un lien de cause à effet entre cette attaque et la chute du président Blaise Compaoré?
Absolument. Le président Blaise a été longtemps considéré comme étant le parrain de la rébellion, le parrain des groupes qui ont créé le trouble au Mali en 2012-2013 et qui continue d'ailleurs à perpétrer quelques attentats. Donc aujourd'hui, il fut même un moment où les autorités maliennes avaient accusé le Burkina sous Blaise de servir de base arrière des groupes armés. Et ils avaient des hôtels luxueux dans lesquels ils passaient leur séjour en toute impunité et au su et au vu des autorités burkinabées. Donc aujourd'hui, avec ce soutien de taille qui était Blaise Compaoré, qui perd le pouvoir, il y a bien entendu ces menaces-là qui reviennent d'antan. Parce que l'accord certainement qu'il y avait entre les groupes armés, entre les groupes terroristes et certaines autorités ne sont plus d'actualité. Deuxième élément, donc, il y a le chef du renseignement burkinabé à la personne de du général Diendéré, qui a été arrêté récemment et qui était très important dans le dispositif sécuritaire du Burkina Faso, qui malheureusement n'a toujours pas été remplacé. Donc ce vide-là fait qu'il y a également des failles qui se créent dans le dispositif sécuritaire du Burkina Faso. Et troisième élément également, c'est le fait que les nouvelles autorités qui ont été mises en place à la suite des élections présidentielles récentes, n'ayant pas tous pris fonction, n'ont pas pris la mesure, toute la mesure aujourd'hui des menaces qui pesaient sur le Burkina Faso en termes de menaces sécuritaires. Donc aujourd'hui, ce sont ces facteurs-là qui expliquent, bien entendu, la facilité, si on peut le dire, avec laquelle les terroristes ont pu frapper le Burkina Faso.
Oui, on attend toujours les résultats de l'enquête qui est en cours, mais en attendant, un nom revient souvent, celui du Mauritanien Mustapha Chafi, qui était l'un des conseillers les plus influents de Compaoré. Alors, est-ce que vous pensez que Chafi peut être impliqué dans ces attaques djihadistes?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a le G5 Sahel qui a pris l'initiative de renforcer le partage d'informations entre les différents pays du Sahel, qui a même prévu de mettre en place une unité spéciale d'intervention et de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Mais il semble de toute évidence que ce soit la Mauritanie qui soit le véritable problème dans la mise en application de ce problème. Donc, de cette solution-là. Donc, aujourd'hui, quelle que soit la menace qui vient d'un pays, moi, je n'exclurais pas l'éventualité que des Mauritaniens ou que même les autorités mauritaniennes soient au courant ou soient même impliquées dans certaines situations. Donc, oui, il ne faut aujourd'hui écarter aucune possibilité. Il faut travailler sur toutes les pistes possibles. Et de toute évidence que le fait que son nom revient le plus souvent n'est pas fortuit. Donc il faut creuser davantage et voir les suspects qui sont aujourd'hui recherchés, les trois suspects dont on parle qui sont recherchés. Il faut voir si on arrive à les capturer, les informations qu'on pourrait en tirer pourraient véritablement aider à avancer très rapidement dans l'enquête.
Oui, surtout que Mustapha Chafi avait négocié pour le compte du président Compaoré avec Mokhtar Belmokhtar, le leader donc d'ACMI. Donc, ce qui veut dire qu'il est considéré donc comme complice.
C'est-à-dire qu'il a ses réseaux, il a ses réseaux, il est très influent auprès de certains groupes terroristes, il est très écouté auprès de même certains groupes armés au nord du Mali. Donc c'est quelqu'un qui est connu et des autorités des pays du Sahel et des groupes terroristes. Donc aujourd'hui, il faut savoir de quel côté véritablement il se situe. Dans les négociations-là, est-ce que derrière, ce n'est pas lui-même qui gère les manœuvres? Moi, c'est des hypothèses, mais au-delà de ces hypothèses, il faut que les enquêtes arrivent à déterminer véritablement la responsabilité de chacun dans tout cela.
Oui, Monsieur Chafi vit en ce moment en Côte d'Ivoire, aux côtés de son mentor Blaise Compaoré. N'est-ce pas la preuve, qu'il jouerait peut-être en coulisses un rôle?
Ce qui est sûr également, c'est qu'aujourd'hui, Blaise fait tout depuis la transition. Il a tout fait pour faire échec à cette transition. En témoigne la tentative de coup d'État avortée. Il y a également toutes ces manœuvres-là que certaines autorités de la Côte d'Ivoire, notamment le président de l'Assemblée nationale, qui seraient impliquées justement dans cette tentative de coup d'État. Donc il y a aujourd'hui des indices qui poussent à croire que la Côte d'Ivoire pourrait jouer au-delà de la personne de Blaise qui a trouvé refuge chez eux, que même des autorités ivoiriennes puissent être impliquées ou puissent être au courant de certaines informations qui pourraient aider à avancer dans l'enquête. Il faut que les enquêtes de plus en plus, que l'on implique les organisations sous-régionales dans cette menace, notamment la CEDEAO, l'Union africaine. Le risque, c'est que tous les autres pays puissent être effectivement touchés. Le seul verrou aujourd'hui qu'il y a entre Boko Haram et la zone Sahel, c'est le Niger. Et si aujourd'hui le Niger arrive à sauter, il en serait fini pour nos différents pays-là sur le plan sécuritaire.
Craignez-vous que les braises du Burkina ne se transforment en un brasier du Sahel?
Le problème a commencé déjà à partir du Mali. Et on voit aujourd'hui que après, il y a eu des attaques tout autour des frontières maliennes, des frontières avec le Burkina, des frontières avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est frappé. Donc il faut s'attendre, si on ne fait rien, que ce soit justement le tour d'un autre pays de la zone Sahel. C'était d'abord la Libye, ensuite la Libye, c'est le Mali, le Burkina Faso, et on ne le souhaite pas, mais demain, ça pourrait être un autre pays, la Côte d'Ivoire, le Niger. Donc le danger de contamination est là, le danger que ce soit un brasier est là, à nos autorités maintenant, à nos chefs d'État, de prendre toute la mesure du problème et de prendre des actions en conscience pour justement permettre aux populations de vivre paisiblement.
Et est-ce que vous pensez que les mesures préventives prises par les pays de la sous-région sont suffisantes?
Non, moi je demeure convaincu que tant qu'on ne va pas résoudre la question de la mise en place d'une unité spéciale d'intervention pour des cas comme ça, on ne s'en sortira pas. Vous avez vu que 50 ans après les indépendances de nos différents États, on a perdu assez de temps dans le cas burkinabé avant d'intervenir. Comme si quelque part, il n'y avait pas suffisamment, on n'était pas suffisamment outillé, on n'était pas suffisamment préparé pour faire face à de telles attaques.
On l'a vu lors de l'attaque du Radisson Blu de Bamako, tout comme la semaine dernière lors de l'attaque de Ouagadougou, que ce sont les soldats français et américains qui étaient en première ligne. N'est-ce pas la preuve que les armées ou les forces de l'ordre de ces pays-là ne sont pas du tout compétentes pour faire face à cette menace terroriste?
En témoigne la présence aujourd'hui de Serval sur le territoire malien, en témoigne la présence de la MINUSMA, qui, malgré qu'ils ne produisent pas suffisamment de résultats, constitue aujourd'hui une forme de dissuasion, une force de dissuasion pour les groupes terroristes. Donc oui, il y a des difficultés au niveau de nos armées, oui, il y a un manque total de moyens financiers, de moyens matériels, d'équipements, et même de formation souvent de nos militaires. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, ces menaces sont l'occasion inouïe pour nous de changer justement cela et de mettre nos différentes armées au premier plan. Parce que tant qu'on continuera à sous-traiter notre sécurité, on ne s'en sortira jamais. On l'a vu, même ces puissances aujourd'hui qui sont en train d'aider les pays africains à se prémunir des dangers du terrorisme, eux-mêmes ne sont pas exempts de ces attaques terroristes. Donc aujourd'hui, il appartient à chacun, au niveau individuel, au niveau national, de pouvoir se prémunir de différents moyens de protection et de renforcement du dispositif sécuritaire. En ce moment-là, des armées nationales fortes seront en mesure de constituer des armées sous-régionales beaucoup plus efficaces.
Bien, docteur Étienne Fakaba Sissoko, merci beaucoup.
Merci à vous.